CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des locutions maltraitées, des contresens affreux, des traductions hasardeuses et des langues qui fourchent. L'équipe aujourd'hui, Gaël Serres, Solarus et Daskrich. Nos interviewés sont Benjamin Boll, Roitelet et Romain Fissoff. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux, j'espère. Ok. C'est super, et ben allons-y. Je suis Daskrich. Bonjour Solarus. Alors, tes cours chez Place de la Bourse Français, c'est mieux que Wall Street English?
My teller is rich.
Ah, ok, d'accord. Bonjour Gaël. Alors, t'es arrivé avec ton Arab 5 Collins et tu savais même pas ce que c'était.
Et voilà,
je crois que t'avais un bonjour à dire d'ailleurs.
Oui, bonjour Boudu, le nouveau magazine de société toulousain qui est aujourd'hui dans les kiosques et je vous invite à aller le lire parce que il est super.
Et on a en ligne donc en direct par satellite Benjamin Boll-Roitelet, donc qui est incubateur à Toulouse. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi par ligne téléphonique Romain Fistroff. Romain, bonjour.
Bonjour.
Bah, super.
Et nous avons aussi Bérangère d'Astarac Wecht, je prononce bien, qui est voilà, à côté de Benjamin.
Voilà, bah, je ne l'avais pas noté, je ne t'ai pas mis au générique, j'en suis désolé. Et tout ça... Et tout ça pour dire, puisqu'on en est encore au bonjour, good morning, child of the pretty future. Donc,
good evening to you too.
Donc, le sujet de l'émission today est l'usage de l'English at work, de son usage avec les gens qui parlent anglais couramment ou entre français de langue maternelle, mais qui se donne juste un genre. Parce que, après tout, nous travaillons dans la haute technologie où les manuels sont in English et en chinois, mais personne n'ose tenter de faire croire qu'ils parlent couramment mandarin sous peine d'être cantonné à la case rigolo qui se la pète de traviole. Jean-Yann, of course. Il n'est de secret pour personne que la mother tongue de l'informatique est l'English. Donc l'usage de l'English est obligatory dans notre job pour être efficient, pour être serious, pour être professional. Le problème, c'est que à parfois trop l'utiliser, et de l'English dans le French, eh ben, on arrive à l'English, c'est-à-dire un très mauvais mix des deux qui démontre surtout une très mauvaise compréhension de l'English, à peu près du niveau de nos présidents de la République. C'est dire... Je ne citerai que deux exemples, les plus soft et malheureusement les plus fréquents. ASAP, qui est passé de « si tu as le temps » au plus pressé « toutes affaires cessantes ». Ou encore, et peut-être le pire, le mail. Le mail, c'est le courrier papier, celui qui est délivré par la poste, qui aux États-Unis n'a pas gagné en popularité malgré le film The Postman, ou en France depuis la scène d'ouverture des visiteurs. Alors, pro tip, dites toujours « e-mail ». Ou alors utiliser le québécois « courriel » plutôt que l'officiel est recommandé « mail » où on risque plus de s'en mêler que d'envoyer un recommandé. Pour ajouter l'insulte à l'injure... Ouais, pardon. Alors en fait, là, je viens de faire une mauvaise traduction de l'intraduisible expression « to add the insult to injury ». Et donc, comble de l'ironie, il y a encore pire, la traduction des termes techniques de l'English vers un French « sort of ». Really approximativement. Ajouter les mé-traductions en novlangue et narque que j'épingle tous les... ans, oui, c'est ça. Le précédent, c'était en octobre dernier, ouais, comme quoi, de l'année dernière. Car, et je ne parle pas de voiture, c'est exiloglotteur de la Commission Générale de Terminologie et de Néologie, rattaché au Premier ministre, ont encore trouvé un moyen de faire parler de notre glorious nation, as usual, en démotivant sa French Tech. Et le public est unanime. Les internautes occasionnels sont autant consternés que les professionnels du secteur. Il faut dire que le logicien architecte en arrière-guichet donne vraiment un ton pédant et has-been à mon job. Pour résumer, je ne mettrai jamais ce titre dans mon CV. Ainsi, les hauts fonctionnaires cruciverbistes proposent « bog » pour un bug, comme si les erreurs étaient des châtaignes et non pas d'horribles insectes de nuit qui te foutent le cafard. Spam est remplacé par arrosage, comme si le souci n'était pas le harcèlement de chacun dans sa boîte email, mais l'ampleur du nombre de gens touchés. pop-up est confondu avec une fenêtre intruse, ce qui est idiot car quand je sauve ce texte, je choisis le répertoire dans une pop-up d'enregistrement qui n'a rien d'intruse. Il faut dire que le problème remonte au début de l'informatique. Logiciel limite le terme software à son explication de 1953, alors que désormais il englobe tout média, comme les films, la musique ou même notre émission qui est un software, par opposition à hardware, le matériel, pour créer, le diffuser et le lire. Effectivement, logiciel est une traduction un poil trop précise. Franchement, les termes imposés par le gouvernement montrent la méconnaissance crasse et le pédantisme des ministères. Je m'étonne qu'il n'y ait toujours pas osé traduire French Tech. D'ailleurs, on se demande pourquoi. En fait, le problème est que rares sont les personnes ayant la virtuosité de Boris Vian quand il traduit le cycle du nom A de Van Vogt ou de Jean-Patrick Manchette pour le comics Watchmen. Évitant le contresens, mais adaptons leur coutume à la locale FRFR. Car oui, adapter c'est trahir. Même le terme computer, devenu ordinateur, en tord le sens vers un certain angle. Quand le philologue Jacques Perret est consulté par IBM France pour trouver une traduction au mot computer, consigne a été donnée d'éviter le terme calculatrice, trop connoté au milieu de la recherche, pour rapprocher celui du monde de la comptabilité d'entreprise, qui, oui, est beaucoup plus rentable. Car oui, des fois, on traduit avec un autre sens, intentionnellement, pour une bête raison commerciale. Dans les entreprises, le taureau a été pris par les cornes dans le sens inverse. Il y existe une traduction qui, tout comme le Casual Friday, qui consiste à se pointer le vendredi sans costume chemise, mais quand même avec la cravate sur le t-shirt, hein, faut pas déconner. Le English Friday, où tous les salariés et patrons ont une obligation morale de s'écrire, se parler et s'ignorer exclusivement in English. Sous l'effet d'émulation, et comme certains ont un meilleur accent que d'autres, il y a une élévation du level, en même temps obligation de chercher le vocabulaire que l'on se manque sous risque de se faire moquer durablement lors du break tea time. Chain of the Preterite Future, je vais être honnête, je vais voir les films en salle de cinéma qu'en version originale, sous-titrée quand même, uniquement par snobisme. Les gens qui vont voir les films en anglais ont au moins la politesse de ne pas discuter en français durant la projection du long métrage, voire de ne pas discuter du tout. En tout cas, ça élève le niveau, et pas que celui de ma compréhension orale ou de mon vocabulaire. Alors ne commettons pas le snobisme inverse, celui de croire que ce carteron de rond de cuir ministériel arriveront à maintenir la France en tête de l'innovation technologique par la force d'un vocabulaire spécifique que personne, même dans l'Hexagone, n'arrive à piger. Car nous n'oublions pas que les langues, elles aussi, passent de mode et s'ankylosent. Le latin n'est plus une langue scientifique depuis le milieu du 19e siècle. Quant au français, ce n'est plus la langue préférée des diplomates depuis 1950. Ce n'est pas uniquement à cause du déclin de l'empire colonial français, mais aussi parce que l'anglais a commencé à avoir tout autant, voire même parfois plus de néances, qualité ô combien indispensable dans toute communication interétatique. Et c'est ce qui fait que l'anglais est peut-être mieux armé dans le domaine informatique, c'est sa plasticité, la facilité de concevoir les mots valises qui veulent dire quelque chose, mais surtout l'absence d'un aéropage immortel de l'Académie française pour en dicter les termes. Child of the Preterite Future, je pense qu'il faut prendre les mots pour ce qu'ils sont, des véhicules à idées, mais il y a aussi la poésie, le contexte, et surtout le fait d'être compris par l'audience. Non, franchement, entre nous, je serais ridicule si par exemple, à la place du mot jingle, je disais sonal, non ?
Cet été en tournée sur nos plages, François chante les plus gros tubes anglais en français. Rythme, ambiance, avec les portes, light my fire.
Viens bébé, allume mon phare. Une minute, viens bébé, allume mon phare. Viens bébé, allume mon phare.
L'ascenseur qui lit, The Dock of the Bay.
Assis devant mon boc de lait, je regarde la peau se former.
Les scarabées, Lucy in the sky with diamonds.
Lucia dans le sky avec des diamants. Lucia dans le sky avec des diamants.
Les portes, l'ascenseur qui lit, les scarabées, cet été, François pénètre dans la peau des plus grands, dans la compile des tubes anglais, chanté en français.
C'était Albert Algou, à l'époque où Canal+ s'appelait Canal+. Gaël,
l'Autriche, c'est bon ? J'ai ton go ?
Ouais.
Je peux commencer ? Tu peux booster un peu le son, là ? C'est overload.
Attends, oui,
dans mon
casque. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais.
C'est bon ?
Ouais.
C'est un peu le stress aujourd'hui, parce que le sujet me tient à cœur. Allez, keep cool, mon grand, t'es un winner. 8. 8 mots pas français pour dire des choses vraiment triviales, pour se donner un genre. Ah, je me gausse, franchement. Vous aussi, ça vous arrive de rire du snobisme de vos chefs, des commerciaux et de vos collègues carrément trop geeks, de ces gens qui usent jusqu'à la semelle des anglicismes souvent pompeux et encore plus souvent inutiles? Moi, ça m'arrive tout le temps. Au bureau, on a inventé un cousin du mot Godwin, le mot galou, le moment galou, moment à partir duquel je râle contre un anglicisme. Mon record, 9h32. C'est bien simple, on m'appelle monsieur l'académicien. Relax, Dasgrij, j'ai laissé mon épée et mes velours verts à la maison. Un peu de sérieux. Autant j'adore l'anglais, parler avec mon beauf gallo-londonien, voir des films en VOST, etc., etc., autant je conchis les anglicismes. Ok, ok, j'avais promis de garder mon calme. Mais sérieux, qui peut se contenir en entendant « Demain, lors de l'event, machin, en guest star, va faire un speech sur la nomophobie, tu me feras un feedback, après on le pushera sur Facebook ». Franchement, c'est pas affligeant ça ? Et encore, je pèse mes mots parce que Google, la CIA et le CSA nous écoutent. Affligeant parce que réduire le français et sa richesse multilinguistique à un simple agent de liaison entre les anglicismes utilisés à tort et surtout à travers, ça me fait autant mal à mon français qu'à mon anglais. Sommes-nous trop abrutis par le marketing, le merchandising, l'advertising et par tous ces francophones qui trouvent l'anglais tellement so cool et le français tellement old school ? Pourquoi utiliser des mots anglais quand leur équivalent existe en français ou qu'il suffirait peut-être de se presser le cervelet pour en inventer ? Alors c'est sûr, quand la Commission Générale de Terminologie et de Néologie s'y essaie et nous pond des listes de 10 mots de vocabulaire comme bog, frimousse, arrière-guichet, dont on vous a parlé il y a quelques instants, on peut rire. Mais au lieu de se moquer, on devrait peut-être s'y mettre. Le résultat serait sans doute bien meilleur, car moins artificiel. Est-ce par snobisme, est-ce par paresse, ou bien parce que notre langue a perdu son dynamisme et qu'elle est donc incapable de pondre des nouveaux mots pour décrire de nouveaux usages ? Si vous avez une réponse, franchement, n'hésitez pas, un petit courriel ou un petit e-lettre avec le i de Igor ou de Internet, ça m'arrangerait. Certains me répondront sans doute que l'anglais est dominant et que c'est pas bien grave si on l'utilise toujours plus dans nos conversations, peut-être. Mais une langue qui ne se renouvelle pas et n'accompagne pas son temps est une langue, selon moi, condamnée. Il ne faudrait pas que ça arrive aux Français au nom d'un pragmatisme économique.
Et donc, nous sommes toujours via communication, voilà, et Google Hangout, voilà, je sais plus
trop. C'est le 21e siècle, on n'a plus d'invité en studio, tout est dématérialisé.
Bien sûr que vous soyez toujours via communication.
Oh, c'est gentil, merci Benjamin. Romain, donc, et... Oh punaise, j'ai oublié notre...
Et Bérangère.
Et Bérangère, pardon, je suis désolé.
Alors, on va commencer d'ailleurs, donc, cette
petite... Maintenant que ma copine est partie, je peux noter.
On va commencer cet entretien, comme je fais interview, avec le monde de l'entreprise. Donc, Benjamin et Bérangère, rebonjour. Et vous êtes là ? Vous m'entendez ?
Oui, on est là.
On est là. Oui. Ok. Benjamin, par exemple, ton site est en anglais, complètement en anglais, sur la page d'accueil, alors que tu es, c'est un accélérateur d'entreprise, de start-up, qui est basé à Toulouse et dont les start-up sont toulousaines, même si elles ont sûrement une aura, une visée mondiale. Pourquoi, du coup, cet usage de l'anglais ?
Elles ne sont pas toulousaines, déjà.
Elles sont pas françaises.
Non, même pas. On a des start-up américaines, anglaises. Qui viennent de Tel Aviv, de Russie. Là, on a une Australienne qui devrait débarquer. Demain, on a une start-up corse qui arrive.
C'est pas français, oui, ça c'est clair.
En tout cas, faut pas leur dire que c'est français. Donc, c'est sûr. Nous, sur notre site, et aussi, on travaille aussi pour des grands groupes, qu'on start-upise, entre guillemets. Mm-hmm. Et sur notre site, on a plus de 70% du trafic qui est étranger, très clairement. Et donc par rapport à ça, enfin, on est quand même sur un sujet qui est malheureusement pas français, où le marché n'est pas français, où le sujet n'est pas français, et si on s'était embêté, alors on s'est dit qu'on ferait un site en français, mais en tout cas on s'est dit qu'en priorité on ferait un site en anglais, parce que on n'allait pas perdre 70% du trafic, 80% du trafic de notre site. La dernière fois qu'on l'a refait, on s'est dit qu'on le ferait en français à un moment, puis franchement, on n'a pas eu le temps et on s'est dit que ce n'était pas bien grave.
C'est pas une priorité.
C'est un peu provoquant ce que je dis. Hein, mais...
Ah bah, c'est toute la question du jour, justement. Pourquoi ce n'est pas bien grave de ne pas communiquer dans sa langue, selon toi ?
Est-ce que ce n'est pas bien grave de communiquer dans sa langue ? Oui. Alors nous, on travaille quand même sur des pratiques ou des technologies émergentes. Mm-hmm. Je prends des exemples bêtes et méchants, mais plus ou moins émergentes. Mais quand on parle de l'user research, tout simplement... On est les premiers en France à l'avoir amené comme pratique de compréhension utilisateur. On l'a amené chez Blablacar. La discipline, elle n'existe pas. Alors, est-ce qu'on pourrait appeler ça maigre utilisateur recherche? Oui et non. Il se trouve que simplement le user recherche, il existe déjà. Et le mot est déjà passé dans le métier de la compréhension utilisateur, et que c'est une approche lean sur l'user recherche. Alors, si on fait ça et si on commence à parler de ça à un client, quand on lui dit voilà, on va appliquer du lean user recherche chez vous, et bien, s'il cherche, si on écrit lean maigre utilisateur recherche, il va se dire qui sont ces gens, de quoi ils me parlent, quoi, parce qu'il n'y a aucune référence par rapport à cette pratique le jour où on l'amène.
Et oui, mais comme c'est une pratique émergente, il n'y en a pas beaucoup non plus en anglais, on pourrait imaginer que vous commenciez en construire, en créer en français pour proposer une traduction.
Il y a quand même une fragilité aussi de la traduction. Si on parle d'une ligne startup qui est déjà un peu plus passée dans les mœurs, ça ferait maigre entreprise de croissance. Et je vais faire une blague à notre ami Dasrich, mais si on parle de Scrum, qui est encore un peu plus vieux, ça ferait mêlée que vous n'aimez, je ne crois pas beaucoup, Dasrich. En tout cas, ça ne vous parle pas particulièrement.
Moi, si, j'aime bien le rugby.
Voilà.
Non, mais d'accord, mais c'est vrai que...
Non, je suis obligé d'être neutre à l'antenne.
Pour reprendre l'exemple, là, par exemple, de Lean Startup, un anglophone, il va comprendre le concept qui est derrière Lean, alors qu'un francophone, il va pas comprendre ça à la base. Lean, pour moi, ça... dire à Lean, à la limite, quoi. Mais j'ai aucun référentiel lié à ça.
Alors, si on parle du Lean, par exemple, il se trouve simplement que le Lean, ça existe quand même depuis un certain temps. Le Lean Startup, un peu moins. Mais le Lean, c'est déjà appliqué dans des industries automobiles, en Asie, etc., sous le mot Lean. Mm-hmm. Donc, c'est déjà un référentiel qui est rentré dans la langue. Et quand on parle de quelles pratiques on doit appliquer dans une entreprise aujourd'hui, ben oui, on est dans un monde ouvert où Internet, c'est à peu près le même au-delà de choses. Si on n'est pas dans une dictature, Internet, il fonctionne à peu près pareil aux États-Unis qu'en France, au-delà de quelques lois particulières, mais dans l'ensemble, techniquement, c'est la même chose. Donc, le terme qui doit être utilisé, c'est à peu près la même chose si on en parle. Voilà.
Désolé d'intervenir, mais c'est vrai que, bon, appliquer le Lean, bon, je ne vais pas reparler du Lino, mais quand on essaie de chercher une traduction, est-ce que, au moins, l'un d'entre vous s'est dit, est-ce qu'on va enfin essayer de chercher une traduction, genre frugal, ou bien besoin tiré, ou ce genre de choses?
Alors, nous, on a quand même quelqu'un chez nous qui s'occupe de branding, de storytelling et de wording autour des startups et des
produits. Merde, l'enfoiré. je viens de finir la bullshit bingo, là.
Et oui, chez nous. Et donc, c'est quelqu'un qui s'occupe, d'identité de marque, de raconter des histoires et de choisir les mots pour les produits et les entreprises qui sortent de chez nous. Qui a beaucoup travaillé en Chine et au Canada et qui de là se dit que le jour où on aurait le temps, effectivement, on pourrait s'amuser, mais c'est pas que s'amuser, c'est s'amuser intellectuellement, j'entends, pour marquer une identité forte aussi à qui on est, aller construire des mots par rapport à ces sujets-là pour se les approprier.
Donc si vous le faites pas, c'est un peu par paresse.
Non. Parce qu'il n'existe pas.
Justement, oui, effectivement, faut les créer.
Titanesque. Et c'est un travail qui, en plus, j'allais dire commercialement, mais d'une manière ou d'une autre, on est une entreprise. Peut être risqué parce que effectivement aujourd'hui on a des entreprises qui nous appellent pour du design thinking, quoi. Et si on leur dit qu'on fait du de la pensée de la, je sais même pas le dire, voilà, et ben ils vont dire oui, mais qui c'est ces gars là qui font pas ce qu'on recherche, quoi, tout simplement.
Et donc vous, et suivez par rapport le moule, à ça, en fait. Suivez le courant, le flow.
c'est pas suivre le flow, c'est que quand on échange avec quelqu'un sur des... alors, nous, on n'est pas des commerciaux des années 80 qui parlons un petit peu, comme on était à l'introduction, de meet-up, de machin, de trucs, etc. On s'en fout de ça. Par contre, sur les technologies, les pratiques, c'est important pour nous de se référencier à des communautés auxquelles on contribue qui ne sont pas forcément francophones. Les gens chez nous, avec qui nous, ne sont pas forcément tous francophones. Ont eu des expériences à l'intérieur. Et on a besoin, pour défendre ce qu'on propose aussi, d'avoir des références par rapport à ça.
Ça, je comprends. Et, c'est vrai que pour une entreprise française, pour se battre à l'international, il faut parler la langue internationale et être compris de tous, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même, je ne sais pas combien de millions, il y a au moins 120 millions, voire plus de francophones. Ces gens-là, ils ne sont pas obligés de parler anglais, même si on est de plus en plus nombreux à baragouiner ou à bien le parler. Mais est-ce que ces gens-là n'ont pas le droit non plus d'avoir leurs mots en bon français ou français du Sénégal, français du Québec, français de n'importe quel pays, mais des mots qui correspondent à l'histoire linguistique de leur de là où ils sont nés. Que c'est pas un droit. Est-ce que le fait du coup de dire on s'en fiche, on va pas faire l'effort, ça met pas de côté plein de gens?
Si, sûrement, mais est-ce que c'est à une entreprise de décider ces mots-là? Est-ce que c'est à nous et qui se permettre de décider ces mots-là pour plusieurs pays, pour plusieurs communautés, je ne sais pas.
Peut-être,
en plus, c'est une question de linguistique, si je peux me permettre.
Vas-y, permets-toi.
Voilà, quoi, enfin, ouais, permets. Donc, en fait, il n'y a qu'en fait, la langue anglaise transmet des concepts qui sont juste pas existants en langue française. Donc, en fait, tu as besoin de 5 mots pour en dire un.
Oui, mais ils les construisent. Je veux dire, nomophobia, par exemple, ils ont pris no mobile. Phobia. Et ils coupent tout, ils mélangent tout, très, très efficace, hop, ils font un nouveau mot qui veut dire la peur de l'absence de portable. Donc il n'existait pas en français.
À part que dans notre langue, on n'est pas capable de construire des mots comme ça, comme l'allemand où tu agglomères des mots. En anglais, tu peux pretty much anglicize anything. Tu es capable d'angliciser presque tout. Mm-hmm. Et en fait, il y a un rapport miroir qui est très intéressant, qui est celui de la législation, par exemple, en Angleterre avant, jusque dans les années...
Ah.
Allô ?
Ah.
Ah, voilà. C'est le sac à couper.
On est désolé.
On va essayer de les récupérer.
Ouais.
Romain ?
Oui.
Oui. Est-ce que tu es d'accord ? Alors, Romain, qui est étudiant en linguistique, si je ne me trompe pas, à Vienne, c'est bien ça ?
C'est ça.
Que je représente deux minutes, qui a créé une très intéressante chaîne YouTube sur la linguistique, où il, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Il y a notamment un débat autour de chocolatine et pain au chocolat, mais bref, ce n'est pas le sujet du jour.
Je vous conseille aussi la vidéo sur Autant pour moi.
Voilà, elles sont toutes très bien.
Et moi, je vous conseille de...
Bref,
je ne l'ai pas vu.
La question, c'était, est-ce que, pour rebondir sur les paroles qui ont été adressées avant que ça coupe, est-ce que le français est incapable de franciser ces mots ? Est-ce qu'il ne peut pas créer des mots nouveaux, genre peut-être... Enfin, voilà, j'ai des exemples, mais qu'en penses-tu ?
Oui.
Bah, déjà, j'aimerais surtout rebondir...
Ouais, ils sont revenus. Mais ils vas-y, continue, Romain.
On posait la question à Romain, du coup, pour attendre. Mais on va continuer sur la question de Romain, puis on reviendra après.
OK.
Alors déjà, d'un point de vue structurel, c'est faux, selon moi, de dire que l'anglais est beaucoup plus... a des capacités à faire plus de néologismes, ou en tout cas à être plus plastique, parce qu'en fait, l'anglais est, d'un point de vue grammatical, beaucoup plus analytique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de segmentation dans les éléments qui constituent la phrase. En fait, beaucoup de mots anglais sont soit issus du français, soit des latinismes ou des hellénismes. En fait, c'est basé sur le grec ou sur le latin.
C'est aussi le celte qui est en majorité qui conduit la langue anglaise. Et je pense qu'en fait, si tu regardes l'histoire de l'Angleterre, en fait, le français est devenu une langue légale. Du coup, la reine l'a choisi dans son blason, qui dit « On y soit qui mal y pense ». Parce que c'était une langue de droit écrit, parce qu'elle n'avait pas d'ambiguïté, ou en tout cas, elle en avait moins que la leur. Nous sommes sur des langues celtes nordiques.
L'anglais est plutôt une langue germanique, si je ne me trompe pas. Mais
ouais, oui, donc germanique et celte. Ils sont capables d'encapsuler un sens... Mais il y a plein de sens.
On va peut-être pas partir sur le débat linguistique, quand même.
Mais au final, tu parles de linguistique.
Oui, mais...
Annonce, donc on en revient à Roland Barthes et à des choses comme ça, forcément.
Ah, oula, on est une émission de droite libérale, donc pas trop de culture, c'est le rôle des 167 autres heures hebdomadaires de cette station. Mais par contre, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure était extrêmement intéressant sur la plasticité de la langue. Et donc, justement, je posais la question à Romain. Est-ce que c'est plus facile, justement, de créer rapidement un terme ? Putain, c'est bizarre de poser la question en français.
Oui, parce que tu n'y arrives pas. Parce qu'en anglais,
Attends. Est-ce que tu peux laisser pas juste répondre Romain ce qu'il est s'il te plaît.
Bah, selon moi, le français a de très grandes capacités à créer des néologismes. Il faut juste s'y habituer, tout simplement. Le français possède énormément de suffixes, de préfixes, de radicaux qu'on peut dériver, notamment issus du grec et du latin. Et d'ailleurs, on s'en est pas privé durant la période classique. On a créé énormément de mots. Après, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut sembler beaucoup plus simple de prendre des mots directement issus de l'anglais. Alors, il faut aussi noter que beaucoup d'anglicismes qu'on crée ne sont absolument pas des mots qui font partie à la base de l'anglais. Ce sont des mots qui ne seront pas compris par des anglophones dans le contexte dans lequel on les utilise.
Par exemple
parking ou camping, par exemple. Ce sont deux exemples qui sont très connus. Oui. Ce sont des mots qui ne seront jamais utilisés tels quels pour les concepts qu'ils définissent en français, en anglais.
Et pourquoi on les utilise
comme... Ils n'existent pas en anglais, en fait.
Ben en fait, ils existent comme adjectifs et pas comme noms. Nous, on les utilise donc comme des substantifs pour se référer donc à des concepts, donc le camping, le fait d'aller faire du camping, le parking, l'endroit où l'on met ses voitures. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'en anglais, parking, l'endroit où on met les voitures, c'est parking spot ou un truc du genre, où parking, justement, est utilisé comme adjectif. Il n'est pas utilisé comme concept lui-même, il n'est pas utilisé comme substantif.
Non, jamais. Tu dis pas un parking, comme on dit en français.
Mmh. Exactement. Et donc, il y a aussi beaucoup de mots que l'on crée où on perçoit une certaine plasticité dans l'anglais, alors que les anglophones eux-mêmes, pour ainsi dire, ne créeront jamais ces mots. En fait, on crée des mots hors de la sphère anglophone.
Alors, et pour terminer, après on fera une petite pause, pourquoi cette attirance des Français pour les mots anglais, c'est de l'exotisme?
Bah, en fait, c'est pas vraiment l'attirance de l'anglais pour, du français pour l'anglais, c'est tout simplement l'attirance d'une langue, quelle qu'elle soit, vers une langue de domination, qu'elle soit, de la domination économique, de la domination culturelle, de la domination artistique. Donc aujourd'hui, c'est l'anglais, mais ça a été le français, comme on l'a déjà dit, notamment l'anglais, par exemple, qui a un à deux tiers de son lexique qui est composé de français ou de latin à la base, enfin, français, ancien français, latin. On se tourne vers cette langue, tout simplement parce que c'est la première à être en contact avec l'innovation et à être en contact avec certains domaines qui lui sont propres, ou en tout cas qui lui sont, des domaines sur lesquels elle a vraiment un impact. L'anglais, c'est notamment tout le secteur économique et le secteur technologique, tout simplement parce que beaucoup d'entreprises technologiques ou informatiques sont tout simplement américaines.
Oui, ce que disait Benjamin juste avant, comme les concepts sont créés en anglais, on les utilise en
anglais.
Exactement,
en fait, on les emprunte tels quels, tout simplement. En cela, c'est pas vraiment voir la prostitution du français, c'est quelque chose qui se passe dans toutes les langues à toute époque.
On fait une petite pause, je propose, pour souffler un petit peu. Et juste à titre d'illustration.
Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais vous chanter une chanson moderne. Mais, en anglais. En anglais, oui. Tant pis si vous comprenez pas, mais c'est dans l'intérêt général, puisque c'est une chanson pour l'exportation. Alors, les devises, hein? Dites. Les devises. Bon, allons-y. Do you speak English? Yes, mademoiselle. Vous parlez anglais? Oh, yes, mademoiselle. Pensez, listen to me, écoutez. Rose beef tech, 5 o'clock, pinup girl, gentleman, zero, nono, calipeto, armoire à glace, vélocipède, caoutchouc. Good morning, mademoiselle. How are you? Very well. Good, 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 you and me, me and you, dites, will you, promenade with me, yes, yes, I love you because you are beautiful, and you have a beautiful lover, dites, will you, et chewing gum, chocolate, cigarette, yes, okay. Do you come with me to the dancing? I dance very well. The English dance, the fox, the blues, the tango, the bourrée, the bougie, the oh, nono, calipeto, armoire à glace, vélocipède, caoutchouc. 1, 2, 3, charming dance. You pinup, me pinup, 50-50, half and half, dit will you, my darling, drink a glass of whiskey, yes, hip barman, then after dancing we'll take the tramway for promenade to the Trafalgar Square. We go to the corner and kiss me, it's all right, and let's go.
Bourvil, chanson anglaise. In the pocket. Vous écoutez FMRC CPU. Et donc nous sommes en ligne avec
Benjamin et Bérangère et Romain aussi de Vienne. Mais juste avant d'être coupé, parce qu'on a une petite coupure téléphonique, on parlait avec Benjamin et Bérangère du rôle des entreprises et puis aussi des gens, de vous, de moi, dans cette création des mots nouveaux. Est-ce qu'il fallait laisser, est-ce qu'il fallait décider de le faire nous-mêmes, ou est-ce qu'il fallait laisser l'académie ou la commission machin d'essayer de le faire elle-même et parfois de nous pondre des mots un peu bizarres. Qu'est-ce que vous en pensez du coup, Benjamin et Bérangère ?
Alors, juste pour préciser, chez nous, on a des gens qui parlent français, anglais, allemand, espagnol, un tout petit peu chinois. Mm-hmm. Donc déjà, c'est pas mal. On arrive déjà à adresser un certain nombre de territoires. Maintenant, quand on parle d'un concept, si je dois trouver un nom russe pour parler du concept à un russe, alors que le concept n'a pas vraiment de... n'a parfois pas de géographie. Hein. On a aussi des pratiques informatiques, des technologies qui sont faites sur plusieurs pays. Oui, l'anglais a été choisi parce que historiquement, c'est la langue du digital, hein, comme le disait Romain. Mais en soi, moi, je ne peux pas m'amuser à trouver le terme. Normalement, si on allait jusqu'à trouver le terme français, il faudrait presque que je trouve le terme espagnol quand je parle un espagnol, le terme allemand quand je parle un allemand et le terme russe quand je parle un russe.
Oui, on peut peut-être les laisser aussi le faire eux-mêmes.
Pardon ?
On peut peut-être laisser ces pays-là et ces communautés-là de langue trouver, créer, forger.
On ne peut pas travailler avec eux.
Non, ce n'est pas ça que je dis non plus, Benjamin.
On manque de temps dans tout ça. C'est le problème qui est... Non, par contre, je vais faire une digression, mais le problème dans tout ça, c'est aussi une question de temps par rapport à là où on est et ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on est dans une course en avant dans le monde dans lequel on est, où les choses vont très vite, particulièrement dans les technologies, particulièrement dans les startups, etc. Et où jamais on a le temps de se poser pour justement réfléchir à là où on va et comment on y va. Et quelque part, comment on en parle, c'est aussi comment on y va. Et donc c'est une question de temps aussi.
Et donc tu dis ça comme avec beaucoup de regrets, parce que c'est...
Oui, parce que, enfin, avec beaucoup de regrets, oui, parce que moi je pense que de temps en temps il faudrait se poser, nous-mêmes on se pose à Equito sur nous-mêmes, mais je pense que le monde dans lequel on est devrait se poser de temps en temps, parce que souvent quand une innovation sort, quand une start-up sort, parfois elle est détournée, ou en tout cas par ses utilisateurs, ou en tout cas elle va être emportée vers autre chose qui n'était pas prévu. Et en tout cas, on ne maîtrise pas toujours une technologie jusqu'à quoi elle va servir quand on la construit. Et finalement, on ne maîtrise pas non plus les impacts indirects comme la langue et les questions que peuvent se poser des gens en se disant « Oui, mais pourquoi l'anglais est partout ? Pourquoi je n'ai pas mon nom espagnol pour dire Lean Startup ou je ne sais quoi ?» ou pour dire « Computer » Quelque part, c'est aussi parce qu'on ne prend pas le temps de se poser pour savoir où on va et pourquoi on y va et comment on y va.
Ok.
Quel est ton avis là-dessus, Romain ?
Alors, j'aimerais juste rebondir sur un truc qui est très intéressant, sur le mot « computer » en anglais, qui est en fait dérivé de « compute » en anglais, qui est tout simplement pris du latin « computare », qui veut dire « compter », qui a donné « compter » en français. Comme quoi, parfois, les mots qui nous semblent les plus anglais sont en fait issus du latin. Je trouve ça aussi très drôle, pour montrer à quel point aussi le latin... a beaucoup influencé et influe encore sur les langues aujourd'hui. Et je suis pas d'accord avec le fait que, bon, après moi c'est beaucoup moins linguistique, c'est plus un jugement personnel que je vais faire, le fait que l'anglais soit vraiment une langue si globale. Alors bien évidemment l'anglais est une langue qui est partout, ça je ne le conteste absolument pas, juste que c'est beaucoup plus cloisonné qu'on ne le croit. Et pour faire le parallèle avec ce que j'ai dit juste avant, les mots qu'on utilise qui sont anglais, ou qui sont en tout cas issus de l'anglais, ne sont pas ceux qui sont utilisés par les anglais eux-mêmes, et parfois les anglicismes que l'on a chez nous ne sont absolument pas les mêmes que les autres peuvent avoir également. Et donc tout simplement en utilisant des concepts anglais, en pensant qu'ils sont universels chez nous, en l'utilisant avec d'autres communautés linguistiques, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément compris, tout simplement parce qu'ils ont été traduits, parce qu'on a emprunté d'autres mots à la place. Donc,
nos anglicismes sont du français.
Je pense que c'est un faux problème. Enfin, en tout cas, c'est une fausse explication de dire que utiliser ces mots, c'est beaucoup plus simple parce que c'est beaucoup plus universel. C'est vrai en partie, mais ça peut également être totalement faux. Ça dépend de quel mot on se réfère. J'ai pas forcément d'exemple sous la main, mais je sais que personnellement, j'habite en Autriche, dans un milieu où on parle allemand tous les jours, en utilisant des mots, en utilisant moi-même des anglicismes, je pense que mon interlocuteur va les comprendre, alors que non, pas du tout. Et lorsque lui les utilise, je me rends compte que moi je ne les comprends pas, parce qu'on a malgré tout traduit ces concepts en français, indirectement.
Donc, nos anglicismes sont du français en fait.
Mais les Anglais utilisent aussi des mots français comme entrepreneur.
Exactement.
Comme entrepreneur, comme garage, comme théâtre.
Comme tous les mots de viande d'ailleurs.
Comme beaucoup de mots qui finissent par re, qui sont plutôt européens en soi. Et par rapport à ça, même il l'oublie. D'ailleurs, il y avait une communication assez célèbre sur les Français n'ont pas de mot pour entrepreneur. Voilà, alors que le mot entrepreneur est français. Donc il faut aussi se dire que tout ça, ces frontières, elles sont un peu tombées, je crois, me semble-t-il. Ça fait mal à beaucoup de gens, peut-être, mais
c'est. Quand tu dis qu'elles sont tombées, c'est-à-dire qu'on s'achemine vers une langue plus ou moins unique, plus ou moins.
Lingua franca ?
Non. Clairement,
pluriel peut-être.
Pardon ?
Pluriel est peut-être le mot juste. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qui se passe par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que effectivement des mots qui étaient des mots qu'on pouvait traduire à l'époque de mail, etc., ça s'accélère beaucoup plus vite aujourd'hui et que parce que la technologie s'accélère, les mots anglais se prête beaucoup plus à ça parce qu'on peut verbaliser un mot sans avoir à réfléchir beaucoup.
C'est ça, c'est de la paresse.
Tout devient un verbe très facilement en anglais, par exemple. En français, on ne sait pas.
C'est vrai, mais on a des modèles de dérivation qui sont très connus des locuteurs, notamment on peut prendre quasiment n'importe quel mot en français, rajouter « isé » à la fin, et on en fait un verbe, en fait. C'est un modèle de productif très courant en français, par exemple. On peut également le faire.
C'est vrai, peut-être. Mais aussi, je pense, en étant parfaitement bilingue en anglais-français, je trouve qu'on arrive à porter des notions. On arrive à porter des notions en anglais qu'on n'arrive pas à porter en français. C'est-à-dire qu'on arrive à dire des trucs qu'on ne peut pas dire en français. Il y a des mots qui encapsulent des sens et il nous en faut 5 en français pour retraduire cette même notion.
Est-ce que une richesse du coup du français d'avoir besoin de plein de petits mots pour
ça devient le droit.
Mais du coup, nous, par exemple, quand on répond à des administrations françaises sur des sujets où on doit les accompagner, comme elles n'aiment pas trop l'anglais, et ce matin encore, j'étais sur cet exercice-là, on a dû traduire un certain nombre de choses sur notre manière de travailler en français. Ça a donné des phrases à rallonge qui de manière en termes de fluidité, n'était quand même pas très agréable. Et j'ai envoyé le document et la personne qui était plutôt d'une administration publique que je connais bien derrière m'a appelé en me disant oula, c'est une traduction d'anglais quoi, c'est une traduction d'anglais. Mais oui, c'est une traduction d'anglais et elle est très dure. Elle est sur des concepts émergents. Elle reste très dure à exprimer de manière concise ce qu'on arrive à faire avec des concepts qui sont définis en anglais. Du moins, je parle vraiment dans le domaine des technologies, des pratiques autour des startups, etc., où ça devient un petit peu l'enfer des fois à traduire en français.
Et du coup, quand il y a des appels, excuse-moi, je te coupe, mais quand il y a des appels d'hommes ou de femmes politiques à franciser un peu plus le langage de l'entreprise, comment c'est pris ? Il y a eu je ne sais plus quel ministre là, qui a écrit aux entrepreneurs « Attention, les gens, vous parlez trop anglais, faites un effort. » Comment c'est ressenti, ça ?
Mais alors, quand on parle, par exemple, de...
Je ne parle pas pour le marché extérieur, pour aller à l'international. Je dis vraiment pour quand on s'adresse aux francophones, quoi, en interne.
Quand on parle de la French Tech tout à l'heure, on a une décision politique qui est de vouloir exporter le savoir-faire des startups, l'écosystème startup à l'étranger, il y a une décision ministérielle quelque part qui fait le choix d'appeler ça French Tech pour que quelque part, en référence à la French Touch, il y ait une marque qui réponde et qui parlent en anglais à tout type de pays.
Oui,
et...
mais parce que là, on vise les pays qui ne parlent pas français.
Oui,
donc
mais
c'est
sur
logique.
La technologie, quelle
on
entreprise...
On aurait pu dire le je ne sais quoi de l'entreprise. Enfin, tu vois, comme
voilà.
Ça a été adopté.
Mais sur, le, sur une entreprise aujourd'hui, quelle entreprise du numérique a un marché qui est régional? Finalement, très peu. Quand on parle, par exemple, d'un label cloud qui serait régional, ça existe, hein. Ça n'a pas vraiment de sens quand on si aujourd'hui on a une entreprise dans son temps, si on a une entreprise dans son temps, eh ben on a potentiellement des clients partout et c'est en ça que ça devient compliqué.
Donc c'est un
de t'attacher au label nuage, tu veux dire.
Au label nuage, voilà.
C'est joli.
Au label
un nuage.
Nuage régional.
C'est joli après.
C'est joli, oui.
D'accord. Ou un brouillard comme les comptes de Numergy et de Claude Watt. Pardon.
Voilà. Claude Watt, d'ailleurs, c'est voilà une initiative française.
Ouais, mais là aussi, on a fait du naming en anglais. Donc, Romain, est-ce que toi, qui es un Français, qui est dans un pays étranger, qui est donc en Autriche, qui a une langue spécifique, qui est l'allemand, comment ils travaillent de leur côté? Est-ce que justement ils cèdent justement à utiliser les mots anglais ou ils font des mots à rallonge que j'arriverai pas à rentrer dans une colonne de Minitel?
Alors pour les secteurs du numérique, je ne peux clairement pas répondre. Je ne suis absolument pas, j'ai absolument pas très dans l'entreprise en Autriche. Il me semble que ce soit ni plus ni moins la même situation qu'en France. C'est pas forcément sur les mêmes mots. En allemand, effectivement, on va avoir des mots à rallonge, comme tu dis, pour désigner des concepts, parce que l'allemand s'y prête très bien, parce que c'est une langue qui peut avoir des structures agglutinantes, où on prend plusieurs concepts, on en fait un seul. C'est très pratique, mais on comprend également beaucoup de mots issus de l'anglais, mais aussi issus du français ou issus du latin. On a ce qu'on appelle du coup des doublés lexicaux, c'est-à-dire qu'on a plusieurs mots pour désigner la même chose, parfois avec quelques petites nuances, hein, ça dépend bien évidemment. En tout cas, tout ce que je peux dire, malgré tout, c'est qu'en fait, ça va dépendre des secteurs, puisque moi, par exemple, j'ai travaillé dans la gastronomie en Autriche, enfin, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, et ils utilisent un nombre de mots français incalculables, tout simplement parce que ça fait bien, parce que ça fait, il y a le côté prestige, parce qu'il y a l'hôtellerie, c'est lié à je sais pas, un certain savoir-faire, à peut-être un certain luxe, et que le français est associé à ce secteur. Et je travaille également, enfin j'étudie également dans le secteur de la linguistique, et là c'est le contraire, où tout va être en allemand. Et même moi j'utilise des mots en allemand, puisque peut-être, pour faire un parallèle avec certains trucs issus dans le monde de l'entreprise, dans les secteurs technologiques, j'ai des mots, des concepts qui sont très bien définis en allemand, qui sont figés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on les utilise tel quel, peu importe, quelle que soit la langue. Et j'utilise ces mots, ces concepts allemands, même en français, tout simplement, parce que je prendrai un temps calculable à les expliquer.
Donc dans ce cas-là, pour l'économie, on utilise les mots anglais, pour la gastronomie, on utilise les mots français, pour la linguistique, les mots allemands, et c'est tout, en fait. Et c'est pas un jugement de valeur que je dis, hein. C'est comme ça.
En fait, c'est tout simplement parce qu'on va tomber dans ce qu'on appelle du sociolecte, c'est-à-dire, donc ce sont des langues spécifiques à certains secteurs, certains groupes sociaux, et c'est forcément dans un groupe social qui est confronté à un certain domaine, on va emprunter des mots à la langue qui est prédominante dans ce domaine, tout simplement, que ce soit dans n'importe quelle époque d'ailleurs. Après, juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant, je suis en train d'y penser, tout ne va pas plus vite forcément, enfin ça va vite aujourd'hui bien évidemment, mais ce n'est pas nouveau. Par exemple le latin a emprunté massivement au grec, par exemple, et c'était il y a 2000 ans. Des mots qui sont passés en français aujourd'hui.
Tu veux dire, il y a 2000 ans, il y a 5 personnes qui avaient le même débat entre le latin, le grec.
Il n'y avait pas forcément ce débat, parce que le grec était une langue de prestige, c'était la langue de la culture, c'est une langue associée à beaucoup d'écrits, il y avait un poids culturel énorme, ce qui faisait que n'importe quelle personne de la noblesse latine, de la haute société latine, se devait de parler grec, comme au Moyen-Âge, les gens se devaient de parler français. C'est tout simplement que les langues de domination, comme ce que je disais avant, qu'elles soient économiques, mais également politiques, artistiques, commerciales, technologiques, enfin, ces langues ont un poids sur les groupes sociaux dans lesquels elles sont les plus représentées. Le français, par exemple, au Moyen-Âge, a donné beaucoup de mots à plein de langues d'Europe.
Et du coup, est-ce que le fait d'utiliser encore et encore des concepts nouveaux en anglais ou dans une autre langue, ça pose problème ou pas du tout, parce qu'en fait, au final, ils seront quand même ingérés?
Bah alors en fait, ça, déjà, il y a plusieurs faits qu'il faut malgré tout établir. On ne peut rien y faire. Ça, de toute façon, les locuteurs sont
les maîtres.
Comment dire, sont les garants de la langue.
La loi Toubon ne servira à rien.
L'Académie française peut pondre tous les mots qu'elle veut. Quand elle se pointe 5 ou 6 ans trop tard, et encore, je suis gentil, malgré tout, les mots qui ont été empruntés sont rentrés dans l'usage. On ne pourra plus jamais les déloger, ou très rarement les déloger, tout simplement parce qu'ils sont passés dans l'usage courant. Ça, déjà, c'est un constat qu'il faut faire. Ensuite, le deuxième constat, c'est que toutes les langues empruntent à toutes les langues. Bien évidemment, quand une langue prend beaucoup plus de place, on va emprunter massivement à celle-là, mais le français n'a pas emprunté qu'à l'anglais, et n'emprunte aujourd'hui d'ailleurs pas que à l'anglais. Dans des secteurs beaucoup plus populaires, on va emprunter à l'arabe, par exemple.
C'est vrai.
Tout simplement parce que des populations issues du Maghreb, par l'immigration, comment dire, ça représente beaucoup de populations dans les secteurs populaires, et du coup, il y a beaucoup de mots de l'arabe qui passent également, ça dépend bien évidemment de là où on regarde. Et le troisième constat, c'est que malgré tout, comme l'anglais est une langue de domination, ça fait vachement bien de parler anglais, et ça aussi, le côté social, le côté, comment dire, le fait de parler anglais, alors bien évidemment dans ce secteur il y a un côté utile, mais il y a également un côté de supériorité. Si je parle anglais, tu ne comprends pas, donc je te renvoie à ta propre ignorance, par exemple, alors que moi je parle la langue de la domination, donc je suis quelqu'un qui est dans l'air du temps.
Et tu viens d'expliquer toute l'utilité de la phrase « Do you f*** my life ?»
Si je peux me permettre,
vas-y Benjamin.
Je parlais avant vachement bien espagnol, voilà. Et l'anglais est tellement pratique, c'est pas du tout une langue de domination pour moi, hein, mais que maintenant dans n'importe quel pays où je vais, je parle anglais, parce que même en Espagne, parce que finalement je parle mieux anglais qu'espagnol, c'est juste une commodité. Sur que les choses vont plus vite, je parlais surtout des technologies, c'est-à-dire les technologies vont de plus en plus vite. Évolue de plus en plus vite, à tel point que, certes, notre site est écrit en anglais, mais sur notre site, on a fait le choix de n'écrire aucune technologie ou pratique. C'est-à-dire, je mets au défi quelqu'un de trouver sur mon site, pas sur le blog, sur notre site, on a choisi de ne plus mettre aucune technologie, Java, Cloud, Scrum, Lean Startup, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous oblige à changer notre site tout le temps. Et c'est ça dont on parle. Et que les mots soient en français ou en anglais ou en je sais pas quoi, soit on mettait des mots qui, pour certains de nos clients, étaient trop en avance, ils ne les connaissaient pas, soit étaient trop en retard pour certains qui étaient un peu plus en avance. Donc on a choisi d'utiliser aucun de ces mots-clés sur notre site, de ces mots techniques. Et les mots techniques, si on veut les voir sur notre site, ils sont sur notre blog, sur des articles qui seront par rapport à une période où les gens auront écrit sur telle ou telle technologie, telle ou telle pratique. Mais les mots techniques en soi, sur notre site, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là parce que tous les 3 mois, ils changent. Et c'est cette vitesse-là dont on parle. Mmh. Aujourd'hui, quand on parle d'IoT, le mot IoT, il est chouette, ou de Big Data. Mais demain, il y en aura un autre pour parler de la même chose. Il y en a déjà d'autres qui sont sortis sur ces sujets-là.
Ce qui est étonnant avec l'IoT, c'est qu'on dit l'Internet des objets, mais quand on le réduit, on dit IoT en France. Enfin, ouais. C'est un truc que j'ai remarqué, qui est assez étonnant.
Mais ce mot-là, il changera et ce sera autre chose. Avant, c'était M2M. Avant, on parlait de M2M, maintenant c'est IoT. Et demain, ça sera encore autre chose, quoi. Et c'est pour ça que nous, sur notre site, on ne s'attache même pas à ces mots-là. On s'attache sur une manière de faire, sur comment nous, on travaille. Et le fait est que d'essayer de parler des technologies ou des pratiques que l'on a, ça nous demandait un travail de malade. Et de toute façon, en termes de rapport à nos clients, ben, finalement, soit on était trop tard pour certains, soit on était trop tôt pour d'autres. Et c'est cette vitesse-là dont je parle.
Ok. Voilà. Et ben, au moins aujourd'hui, on aura pris un peu de temps pour se poser et en discuter. Ça va peut-être faire naître des idées.
En tout cas, ça va. J'espère que ça va attirer beaucoup de commentaires que Gaël attend sur le site.
S'il reste une minute, juste, on a quelqu'un qui voudrait nous parler du créole, qui est chef lundi, qui est notre chef à Iquitos, et qui a une réflexion pendant que vous parliez tout à l'heure.
Très très rapidement alors. Vraiment créole, très rapidement, parce qu'on va être en retard.
Qui est intéressante.
Alors très rapidement, je voudrais parler du créole réunionnais que je connais,
oui.
Que je parle, qui est en fait un très mauvais français. Voilà, c'est un français mauvais, voilà.
Oui.
Ils ne savent pas parler français, pour simplifier.
Pas de débat sur le pidgin et les créoles, hein, s'il vous plaît.
Et le pidgin English, enfin, etc. Et juste pour dire que moi, quand je retourne sur mon île, voilà, tous les 6 mois, tous les ans, le créole, il a changé. Le créole réunionnais, il a changé. C'est des nouveaux mots. Une fourchette peut changer, des objets, une table, on peut l'appeler autrement. Les jeunes... l'appelle autrement, voilà, ça bouge vachement plus, donc ils n'ont aucun problème aussi à adapter. Il y a des mots Voilà, Internet, c'est Internet, mais il y a d'autres mots pour les choses technologiques, voilà.
Tout change très vite.
Et la langue, elle bouge vachement vite. Il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, il y a du portugais, il y a de l'antillais, du créole antillais. Voilà, ça bouge. Enfin, voilà. C'est une langue qui bouge super vite.
Ok.
Par rapport au français, même sur les objets de la vie courante, ou les expressions, ou les. Voilà, et tout le monde s'adapte, et moi, j'arrive à me comprendre. Comprendre mes parents qui ont changé de créole.
D'accord, ok. Merci pour ce témoignage. On va arrêter là, je suis désolé, on pourrait en parler pendant plusieurs heures, mais on va être très à la bourre. Merci Benjamin, merci Bérangère, merci Romain, merci. Je sais plus la dernière personne, pardon. Merci pour ce témoignage de dernière minute.
Merci à vous.
Et vous retrouverez tout ça en ligne quand ça le sera. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
For sentimental reasons, I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you. And you were long, long meant for me. Please give your loving heart to me. And say we'll never part.
Carl Zero, I love you for sentimental reasons, extrait de la bande originale d'un épisode des X-Files. Solarus.
Hello everybody and welcome to our new keynote. I'm Solarus, CEO of Ultrawaves Corporation. Our company is not like these old companies from the 20th century. We are a pure product of the 21st century. Ultrawaves Corporation is a 7-year-old tech company now valued at $1 billion. We have found an online service that lets people rent their car to strangers. If you don't use your car, just rent it and earn money. From the start, we have considered internet as an opportunity. We are the French Airbnb of the road. Riot spoke about us in an article. Of course, we have faced a lot of legal questions. What if your car has an accident? What if your car kills someone to save 10 other people? Don't think about it. Our lawyers are here to deal with it. Car sharing is making it possible for thousands of middle-class families to make ends meet and stay in the city. We continually noted the opportunity for synergy, and we recently have bought Airbnb and BlaBlaCar, two startups belonging, like us, to the sharing economy. The deal is near $20 billion. You might be thinking that's a lot of money to drop, but we need to stay the number one of the sharing economy. Our next goal is to develop big data usage by geolocating all our cars in the cloud to deal with traffic and pollution and then contribute to the reduction of global warming. By crowdfunding our researches and development, we are certain to develop new technologies plebiscited by our users. But let me introduce our new Internet of Things research program. We are developing a new connected coffee machine. From your office, you can ask your machine to make you a delicious coffee waiting for you at home. What if an accident happens? Don't fret about it. Our lawyers are here to deal with it. And of course, the connected toilet seat. By taking your the computer will calculate if you are healthy or not. This innovation is sponsored by the medical insurance industry. If you eat too much fat or drink too much alcohol, the toilet seat will alert your medical insurance company and will give you an advice to live better and healthier. Vegetable and fruit will be shipped in your connected fridge, but take care. On the Internet of Things, nobody knows your fridge.
La météo d'Internet.
Par Bellissama, par Bellenos, elle est totalement vide, la boîte à Celt, depuis l'arrivée de Jules. Le Gaulois était la plaine, mais nous n'avons plus sur le bout de la langue qu'un peu de bac en réserve, de l'arpent, quelques bécots, un bouc, une cagoule, une gougue, et même une loche pour imaginer quelque gauloiserie sur la résidence de la matrone belle-père. Depuis Alésia, on est tous galonnés, paraît que c'est bon pour latin. Depuis, comme le dit Grand Charles, on ne pratique plus vraiment la langue gauloise avec ou sans filtre. Pourtant, la Ligua Franca de César n'a pas toujours été bonne comme la romaine. Les gars du petit Littré n'ont peut-être pas été assez puniques dans leur jeunesse ou collés de corvées de latine. Car il reste encore des traces, académiques, catharsis ou xénophobie. Nom de Zeus, Hélène et les garçons leur ont fait des crasses. Nos bibliothèques truffées de lexique témoignent encore qu'ils sont allés se faire voir chez les Grecs. Timéo Danao, comme on dit chez Yoplait. Mais revenons à nos pâturages. Après une courte accalmie vers l'an 500, un vent d'Est s'est levé de Germanie, a balayé l'Austrasie. Une zone de haute pression teutone s'est installée de manière permanente de Mérové à Karl der Grosse, en passant par Pépin de Herstal. Les gars francs du collier parlaient, paraît-il, tant les uns que les autres. Des Salbaben vir Eilvenig, Deutsche Gelernt, Abo Ohne Google Translate. Il nous en est resté quelques bunkers, des asticots. Ils nous ont fait cravacher pour accepter leur dictat avec leur méthode de hussard. Après ça, la pureté de la race franque de souche, elle était un peu capoute. Puis les nouveaux normands sont chassés les anciens francs. Crème fraîche, houlette, cric et hague, il n'est pas épais l'héritage d'Agar du Nord. Plus ou moins à la même époque, un front plutôt chaud bouillant s'est dessiné au sud, créant une forte crue pyrénéenne du côté de Roncevaux, grosse comme un olifant, si grosse qu'on en parle encore. Lost a dû se mettre Martel en tête pour faire moitié Poitiers et chasser ses grappes de sarrasins. Mais avant cette algarade, ces spécialistes d'Erasia avaient fait Fissa pour nous plonger dans l'algèbre, nous montrer Aldébaran, nous faire élever des alezans. Depuis, il nous reste un chouïa d'arsenal, quelques babouches et du café à siroter sous la guitoune en attendant l'heure du méchoui. Après les Mérovées, c'est au tour des Capés, quand Jeanne de Navarre puis Isabelle de France provoquent un tsunami-ami avec les Angles. Et c'est parti pour 100 ans de crash, de blackout, de boycott, avec le kidnapping de Richard Cœur de Lion, les rushs de Duguay-Clin, les happenings de Thierry Lafonde, les knockouts d'Ivanhoe. Depuis 1337, on s'étripe joyeusement entre roast beef et froggies. À la longue, on finit par s'habituer. Il n'y a plus que des pseudo-traditionalistes qui n'apprécient pas de mélanger leur langue 7 fois dans celle des autres pour en faire un deal win-win sacrément cool et top. Allez, la prochaine météo, on vous la fait en lead speak. Promis ou pas? Service prévision météo, j'ai deux mots à lui dire là, de suite. C'était CPU, le programme carré, petit et utile, et pour cette sortie et par release, l'équipe était constituée de Daskrit, chef local officer, Gaël Serres, chief linguist officer, Solarus, chef locution officer. La sortie donc a été produite avec les moyens techniques de Booster, de... Comment j'ai traduit Booster? Et de Radio Éphémère. L'intégralité du programme, les extraits, les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Cpu.pm, vous pouvez commenter et partager. Prochaine émission la semaine prochaine, data journalisme, non, journalisme de données, pardon, excusez-moi. Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi prochain à 11h. Même sortir des clous là, c'est quand même pas évident. Rigolez pas derrière, faut que je fasse la finale, c'est pas dur.
On va se mettre à espéranto, ce sera plus simple.
Si vous nous écoutez sur Radio Éphémère Analogique, il est presque midi. Nous cédons immédiatement à Monique Blanquet pour son impromptu de lettres et de planches.